La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette semaine spéciale consacrée aux révisions du bac, semaine que nous commençons aujourd'hui avec la question du personnage de roman dans une émission de Laurane Travaglichanal, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet et Antoine Filipponi. France Culture passe donc le bac, comme chaque année à cette période, le bac de français qui aura lieu lundi 18 juin dans l'après-midi pour toutes les classes de première. Et pour donner un coup de pouce aux lycéens, nous avons choisi une formule un peu différente de celle des autres années avec des émissions axées autant sur la méthodologie que sur de grands thèmes de culture générale littéraire ou sur les objets d'études abordés cette année en classe de première, comme vous allez l'entendre ici jusqu'à jeudi. Jeudi, justement, nous vous proposerons de reprendre la chronologie des grands mouvements littéraires depuis la Pléiade jusqu'au nouveau roman. Ce sera avec Pascal Fautrier. La veille, mercredi, nous aurons passé une heure à étudier La Princesse de Montpensier, nouvelle de Madame de Lafayette au programme des Terminales L, ainsi que son adaptation au cinéma par Bertrand Tavernier. C'est Michel Vincent qui nous dira tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Enfin, demain, nous parlerons d'abord du thème des réécritures, qui est un autre objet d'étude au programme, avec les exemple de Robinson Crusoe, puis il sera question de la méthode pour la dissertation, de thèmes abordés successivement par Marianne Jéglé et Hélène Merlin-Cageman. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie, après la chronique méthodologique de Marie-Sandrine Lamoureux, professeure de français au lycée Joliot-Curie de Nanterre, nous étudierons la méthode du commentaire de texte avec Véronique Anglard, professeure au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés. Et en première partie, eh bien, nous nous posons la question, en apparence bien simple, mais en apparence seulement, qui est celle de savoir ce que c'est exactement qu'un personnage de roman. Nous le faisons avec Jean Bardet, agrégé de lettres modernes, auteur d'une anthologie sur ce thème, du personnage de roman publié en 2007 aux éditions Gallimard. Mais avant d'inventer le personnage de roman, eh bien, il a fallu inventer le roman lui-même et je vous propose d'entendre un extrait de ce que l'on considère généralement comme l'un des tout premiers romans modernes, La Princesse de Clèves, qui date de 1678, extrait qui met en scène la rencontre entre Mademoiselle de Chartres et le prince de Clèves.
La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'avait jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris par sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise. Et Mademoiselle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné. Monsieur de Clèves la regardait avec admiration et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien par son air et par tout ce qui était à sa suite qu'elle devait être d'une grande qualité. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté. Il lui parut même qu'il était la cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller, et en effet, elle sortit assez promptement. Le prince de Clèves demeura si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions, qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires.
Une lecture par Guillaume Gallienne. Bonjour Jean Bardet.
Bonjour.
Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. En quoi ce roman, La Princesse de Clèves, peut-il davantage que les textes qui l'ont précédé revendiquer le qualificatif de roman et en quoi est-ce dû peut-être justement au traitement qui est fait du personnage ?
Alors d'abord, le fait de considérer ce roman comme un peu la première date, en fait la première œuvre du roman moderne, s'explique sans doute justement par le traitement qui est fait du personnage, à savoir on a encore évidemment tout l'aspect codifié lié au contexte historique évoqué par le roman de la princesse de Clèves, mais ce côté codifié qui était vraiment à quoi se réduisait quand même pas mal d'œuvres avant cette œuvre de la fin du XVIIe, s'atténue vraiment parce que les codes sont singulièrement enrichis par une approche psychologique extrêmement raffinée du personnage, donc de la princesse de Clèves.
C'est-à-dire, avant la princesse de Clèves, les personnages n'ont pas de vie intérieure ?
Alors, les personnages ont peu de vie intérieure. Si on pense, en tout cas, à ce qui est considéré un peu comme les premiers romans, mais qui ne sont pas des romans donc en prose, mais en vers, si je pense à la période médiévale notamment, les personnages, en fait, effectivement, sont liés à leurs actions. Ils sont vraiment réduits à des stéréotypes héroïques, en fait, voilà. Et ils n'ont pas effectivement de vie intérieure, ou très très peu de vie intérieure. Ce qui compte, c'est leurs actions, leurs hauts faits, en fait, leurs exploits, mais pas effectivement l'intérieur, en tout cas, de leur personnalité. Soyons honnêtes, il me semble quand même que le roman, la tradition du roman comique, qui inspire
d'ailleurs la princesse de Clèves,
a quand même déjà enrichi, a secoué en fait les stéréotypes, a donné une dimension critique aussi au roman qu'il avait peu en fait dans ses premiers temps. Et il me semble que Madame de Lafayette justement a enrichi totalement cette approche, a poussé beaucoup plus loin, notamment avec la fameuse scène de l'aveu, qui a beaucoup étonné, dérouté les lecteurs de l'époque, qu'ils ont pu même condamner comme invraisemblable, alors que justement, ça me semble être un temps très très fort de l'enrichissement du personnage et d'un gain en tout cas de vraisemblance, justement.
Alors on reparlera de Madame de Lafayette mercredi à travers sa nouvelle La princesse de Montpensier, mais qu'est-ce qui pour vous fait que Madame de Lafayette, à l'époque où elle écrit La princesse de Clèves, peut finalement créer ce personnage doté d'une vie intérieure? Est-ce que c'est l'histoire de la littérature ou est-ce que c'est la société finalement qui change et qui permet au personnage d'émerger en tant que tel? C'est une question difficile, mais enfin...
Oui, puisqu'évidemment je n'ai pas les clés. Je pense que des relations que Madame de Lafayette pouvait avoir avec quelqu'un comme La Rochefoucauld, qui était quand même un des grands esprits et grands moralistes en fait de l'époque, je pense que ces conversations, ces échanges, etc., ont fait de Madame de Lafayette elle-même un écrivain soucieux, en tout cas, de
modernité.
Oui, de modernité. Je crois que c'est clair et de donner une approche de son personnage beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile.
Et puis cette idée de l'individu, oui, par rapport à la société, l'individu qui s'extrait finalement de son milieu pour parler au jeu, pour parler à la première personne, ça peut créer aussi peut-être un personnage un petit peu différent.
Exactement. C'est-à-dire, je pense aussi que, si vous voulez, comme ça correspond à cette fin du XVIIe, on est dans une phase où le sujet prend naissance, mais enfin s'impose davantage dans le domaine des arts. Et la princesse de Clèves me semble un bon reflet de cette valorisation du sujet.
Voilà. Alors, avant la princesse de Clèves, Jean Bardet, il y avait eu Don Quichotte. Mmh. Est-ce que là, on n'est pas dans un vrai personnage de roman avec Don Quichotte déjà?
Tout à fait. Enfin, pas au même sens. C'est-à-dire, c'est un personnage, si vous voulez, qui a une dimension, bien sûr, de personnage savoureux, etc., plaisant, par sa dimension justement critique que j'évoquais à propos un peu du roman comique, enfin ce qu'on appelle le roman comique. C'est un personnage en fait qui va parodier le domaine chevaleresque, et on va retrouver les clichés des romans de chevalerie, mais évidemment détournés, enrichis, et cette dimension critique effectivement fait qu'il est l'acteur, en fait le protagoniste protagoniste plaisant, en tout cas, d'une série d'aventures. Mmh. Voilà. Mais c'est surtout en tant que protagoniste plaisant d'une série d'aventures qu'il s'impose comme personnage. Pas véritablement avec une intériorité aussi grande que celle de la princesse de Clèves.
Et donc si on remonte encore à Aristote, on est dans non pas le personnage pensant, mais le personnage agissant.
Exactement.
Le personnage qui d'ailleurs n'est pas un personnage de roman, puisque le roman n'existe pas en tant que tel, n'est là que pour faire avancer l'action.
Exactement. C'est un personnage, c'est vraiment une émanation de l'action, ce que le personnage va rester très, très longtemps. Ce qu'il a eu tendance à redevenir aussi par moment au fil de l'histoire du roman.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire personnage ? D'où ça vient ce mot ?
Alors l'étymologie serait le mot persona. Hein, donc l'idée, en fait, cette étymologie ramène au masque, au domaine illusoire, plutôt au domaine théâtral. Donc effectivement, c'est ça. Le mot personnage lui-même, il apparaît en fait aux alentours du XVe siècle, mais vraiment il va s'imposer dans l'histoire littéraire au XVIIIe. C'est là qu'il est le plus utilisé par la critique littéraire notamment, mais il a mis du temps à s'imposer quand même, en tout cas dans les écrits critiques par exemple. Voilà.
Alors, est-ce que le personnage, c'est celui qui fait, ou est-ce que c'est celui qui est ? Et est-ce que toute l'histoire justement de cette notion de personnage, c'est pas justement le passage du faire à l'être,
Jean
Bardet ?
Alors, je suis d'accord sur votre présentation. Je pense quand même que, puisqu'on s'adresse aussi à un public scolaire, le personnage pour ce public scolaire, c'est d'abord celui qui fait. C'est-à-dire celui, il existe d'abord par ses actions, il est le protagoniste, comme on disait tout à l'heure, celui qui mène l'action. Il existe d'abord comme ceci.
Mais est-ce qu'il est obligatoirement quelqu'un qui agit ? Est-ce qu'il existe des personnages qui ne font rien, qui ne font pas avancer l'action ?
Oui, quand même.
Ça se complique alors.
On a effectivement, surtout, et j'ai envie de vous dire, dans les siècles les plus récents, on a des personnages peut-être justement assez passifs, qui sont plus agis qu'ils n'agissent vraiment. On peut penser, je ne sais pas, par exemple, au personnage de Meursault dans L'Étranger. On sait bien qu'il y a des actes, on sait bien qu'il y a des actes qui sont condamnés, etc. Mais on sent bien que c'est un personnage qui est plus agi par l'univers dans lequel il évolue qu'il n'agit lui-même.
Mais en même temps, sans Meursault, il n'y a pas de roman qui s'appelle L'Étranger. Est-ce qu'il pourrait y avoir, on en reparlera peut-être quand on avancera dans les siècles, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un roman sans personnage du tout ?
Oui, enfin, d'une certaine façon, je pense que même dans les expériences du nouveau roman, on a vu une sorte d'effacement quand même du personnage, puisque le nouveau roman a fait le procès du roman du 19e et du roman à la Balzac, notamment, avec le statut qui était donné à ce personnage, qui était un statut de plus en plus imposant, peut-être un peu écrasant. Donc, effectivement, rappelons-nous Robe Grillée, des personnages qui deviennent A, 3 points, etc. Donc, il y a une sorte d'effacement quand même du personnage, et il est quelquefois très difficile de leur donner une richesse intérieure, une personnalité, un caractère, pour reprendre un autre mot qui a été aussi longtemps synonyme de personnage.
Alors, justement, le personnage dans les romans du 19e siècle, venons-y, avec peut-être cet extrait pour commencer de la manière dont Zola envisageait le rôle du personnage de roman. C'est dans sa préface à La Fortune des Rougon qu'il l'explique.
Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10, à 20 individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres, l'hérédité à ses lois comme la pesanteur. Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre, comme acteur d'une époque historique. Je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts. J'analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l'ensemble. «
la compagnie des auteurs sur France Culture. Jean Bardet, en quoi la manière dont Zola parle du personnage de roman est-elle représentative de la façon dont les écrivains, les grands écrivains du 19e siècle en France, et notamment on pense à Balzac aussi évidemment un peu avant, vont envisager le rôle du personnage de roman?
Alors, je pense, enfin, le terme est un peu connoté négativement, mais le personnage, pour ces auteurs du 19e, il est d'abord un instrument, quand même, au service, en tout cas, d'une vision qu'ils ont de la société, du monde. Il est donc instrumentalisé quand même par des théories comme les théories naturalistes que vous évoquiez. Hein, c'est pas un hasard si une œuvre de Zola s'appelle le roman expérimental. Hein, donc on utilise ce personnage parce qu'il s'inscrit dans un tissu, dans un ensemble, et c'est là qu'il est véritablement intéressant pour eux. Hein. Alors, avec le risque peut-être justement d'en faire un peu trop quelquefois un instrument, c'est quelquefois peut-être aussi un peu réducteur parce que il y a un caractère un peu démonstratif de l'utilisation du personnage qui finalement n'existe plus peut-être tellement en lui-même, hein, mais dans le contexte social notamment dans lequel il s'inscrit.
C'est au fond ce qu'on va reprocher au personnage du 19e siècle. Oui. Mais en quoi le personnage qui a précédé, ce personnage du 19e, celui de la princesse de Clèves, n'est-il pas aussi un instrument tout de même pour démontrer quelque chose, un mécanisme plus grand?
Alors, vous avez raison, mais bien sûr, il y a toujours, effectivement, il peut y avoir toujours ces formes d'arrière-pensée. Mais si je prends, par exemple, les romans du 18e, si je prends les romans de Diderot, ou le paysan parvenu, par exemple, vous voyez des œuvres comme ceci, il y a quand même une approche peut-être un plus joyeuse et plus ludique du personnage. Il ne me semble pas au service d'une thèse. Il me semble que il est plutôt l'incarnation du plaisir de la fiction. Vous voyez, donc il me semble plus libre. Hein, j'aime beaucoup d'ailleurs les personnages du 18e parce qu'il y a quelque chose de joyeux, de libre dans leur manière d'évoluer, même s'ils n'ont pas une profondeur psychologique très très grande encore. Il y a quand même un souci d'en faire, de les rattacher à l'action et essentiellement à l'action. Vous voyez, on n'a pas par exemple la pesanteur quand même, il faut le dire, qui existe des théories de l'hérédité chez Zola, par exemple, il n'y a pas ça. Ce que je retiendrai bien du texte que vous nous avez fait entendre, c'est quand même le côté synthétique. Le personnage est quand même n'est pas le reflet d'un être réel, mais toujours la synthèse de personnages éventuellement réels ou peut-être tout simplement le fruit d'une imagination.
Donc on est dans l'artificialité, oui, la plus grande, et pourtant c'est l'âge d'or du personnage de roman. On est peut-être encore dans ce paradigme-là pour la majorité de la littérature mondiale.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, oui, d'abord c'est effectivement l'âge d'or parce que le roman ne s'est jamais mieux porté qu'au 19e. Je pense aussi qu'il y avait l'apparition, vous savez, en feuilleton des grands romans faisait que peut-être, comme dans une série télévisée, enfin voilà.
Les séries télévisées sont sur ce modèle quand même.
Sur ce
bien
modèle,
souvent.
Exactement. On s'attachait au roman à travers un personnage. Il y avait de très très belles figures de personnages. Ça compte aussi beaucoup. Si je pense au roman de Stendhal, hein, c'est difficile, si vous voulez, de penser les œuvres de Stendhal sans penser Fabrice, Lucien, Julien. Enfin, c'est vrai. Donc il y avait des figures extrêmement attachantes de personnages qui ont, à mon avis, fait que la dimension artificielle dont vous parliez passait vraiment au second plan.
Mais est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que la majorité de la littérature américaine reste sur ce paradigme aujourd'hui encore ?
À mon sens, assez souvent, oui, quand même. Oui, enfin, en tout cas, c'est la perception que j'ai. Cela dit, je ne la connais que trop partiellement pour m'aventurer sur ce terrain, mais pour les romans que je connais, je ressens effectivement, je perçois ce paradigme, en tout cas, en place encore. Oui.
Et alors, au 19e, il y a quand même Flaubert.
Oui.
Et le personnage de Flaubert, c'est pas le même personnage que Zola.
Non, c'est même, si vous voulez, Flaubert est un auteur vraiment intéressant aussi remercier pour ça, c'est que même si les noms de personnages, si on apparaissent, vous savez, on parle de personnages éponymes, même si il donne à son œuvre sur Madame Bovary le titre Madame Bovary, on sait bien qu'il entendait écrire un livre sur rien et que sa préoccupation première n'était pas en fait réellement ce personnage, mais plutôt véritablement comment on perçoit une société donnée, et de manière assez critique, assez distante, etc. Et le personnage, en l'occurrence, n'a pas l'importance qu'un Zola, par exemple, ou un Balzac, ont pu lui donner.
Alors, Jean Bardet, quand on pense au personnage de roman, on pense immédiatement à la question de la réalité de ce personnage. Est-ce que ces personnages ont un modèle ? Et d'ailleurs, bien des écrivains ont dû démentir à certains de leurs amis ou certaines de leurs connaissances qu'ils ou elles étaient les modèles de leur personnage. Oui. Donc ça semble toujours un nœud problématique.
C'est vrai. C'est vrai que ça vient de diverses choses, c'est-à-dire au XVIIe siècle, il y avait une sorte de jeu mondain qui consistait à essayer de retrouver derrière telle ou telle figure littéraire le modèle qui lui avait permis de naître. Proust, dans ma petite anthologie, j'avais évoqué la réaction de Proust. Une dame lui écrivant en se disant qu'elle était sans doute le modèle d'Odette de Crécy. Et il lui a répondu que ce n'était absolument pas le cas et que c'était à désespérer d'écrire des livres, de voir des gens chercher à se reconnaître dans un personnage.
Et pourtant, les lecteurs cherchent encore et toujours la réalité qui se cache derrière.
Peut-être, enfin, encore que, bon, moi je n'ai pas pas, j'avoue, en tant que lecteur, ce souci-là.
Vous n'êtes peut-être pas majoritaire.
Non, peut-être pas, c'est vrai. Mais je pense quand même qu'il y a un côté, il y a un piège, si vous voulez, un peu dans cette recherche. C'est-à-dire, c'est aller trop loin dans la volonté de retrouver derrière le personnage, la personne. Je pense quand même qu'il faut lui garder sa valeur de masque, sa valeur artificielle, irréelle. Je pense que c'est comme ça qu'il est le plus fort. Si vous me permettez, je pense, vous savez, un peu au problème que posent les adaptations de romans. Hein, vous avez rêvé longtemps, Julien, Fabrice ou Lucien, et vous les retrouvez portés à l'écran. Et moi, j'ai la même réaction que Julien Gracq avait en découvrant les adaptations des romans de Zola, notamment Le Rouge et le Noir. On a l'impression véritablement d'une trahison, que quelque chose ne correspond absolument pas à notre imaginaire de lecteur.
Et qu'est-ce que les lycéens doivent en garder, alors ?
Je pense que le personnage, il ne doit pas, même si c'est une clé agréable pour entrer dans un roman, même si c'est une clé séduisante, je pense quand même, si vous voulez, que je pense que c'est plus l'atmosphère autour du personnage, le monde autour de lui, qui doit rester leur préoccupation. Comment est-ce qu'il s'inscrit dans ce monde ? Comment les choses interagissent entre le monde et le personnage ?
La Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons toujours du personnage de roman avec Jean Bardet. Nous en arrivons maintenant au XXe siècle et à l'irruption, pas tellement soudaine, mais sans doute progressive, d'un certain nombre de techniques narratives, comme le courant de conscience, qui vont là encore renouveler complètement le personnage de roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce début de XXe siècle ?
Oui, alors donc dans les temps forts de l'évolution du personnage du roman, il y a le fameux monologue intérieur qu'Édouard Dujardin a été le premier à utilisée d'après ce que l'on sait. Donc l'intérêt
qu'on attribue souvent plutôt à Joyce, mais c'est
oui, vous avez raison. Sans doute plus tard. Mais enfin, bon, en tout cas, disons que c'est un peu la référence qui est donnée, qui va être prise par des romanciers aussi bien très modernes que des romanciers plus traditionnalistes. Je pense à Mauriac dans Thérèse d'Esquerou, évidemment, qui va l'utiliser. Alors l'intérêt du monologue intérieur, me semble-t-il, c'est que on va aller plus loin dans l'approche de la psychologie d'un personnage, et surtout on va éviter peut-être une approche un peu trop monolithique de cette psychologie. C'est-à-dire le monologue intérieur permet de voir les incohérences intérieures, les mouvements un peu de l'âme, etc. Et ça me semble une source de richesse dans l'approche de l'intime, en fait.
Voilà. Ouais. Et en quoi ça change, du coup, l'idée même de ce que c'est qu'un personnage en littérature?
Alors, il me semble, si vous voulez, que le personnage est beaucoup moins tributaire des descriptions telles que pouvait les faire Balzac, si vous voulez, où on devait un peu lire dans la tenue du personnage ce qu'il était en fait, avec ces espèces de correspondances entre intérieur et extérieur. Là, on a une approche, si vous voulez, plus directe du personnage. Il devient une voix, il devient peut-être en fait entre guillemets, l'identification est plus facile, elle me semble en tout cas facilitée par cette ouverture comme ça de l'âme que permet le monologue intérieur.
À la fois facilitée et peut-être rendue aussi plus difficile, parce que tout n'est pas donné. On doit, en tant que lecteur, imaginer davantage qui est ce personnage que finalement on ne voit pas en pied. On le voit à travers ce que lui regarde et à travers ce que lui pense.
C'est vrai. Je pense que le 20e suppose quand même une activité plus grande du lecteur. C'est vrai, comme vous dites, il participe quelque part à cette construction du personnage, alors que tout était donné par Balzac, par exemple, où on avait l'impression que la fiche signalétique du personnage était totale. Et j'ai envie de dire, on peut penser à celle que Gracq donne des personnages de ses romans, où on voit qu'il détourne le procédé justement de la fiche signalétique et il invente une identité qui n'est plus réellement une identité, qui est quelque chose d'un peu rêveur. Donc il me semble que le monologue intérieur peut faciliter cette approche-là.
Oui. Et Gide disait, en référence à Balzac, « Concurrence à l'état civil, qu'ai-je à faire à l'état civil ?» L'État, c'est moi, l'artiste, civil ou pas, mon œuvre prétend ne concurrencer rien.
Oui, je pense qu'il y a la volonté véritablement chez lui, il y a un vent de liberté qui a soufflé. Il avait aussi, vous savez, très peur des œuvres qui concluent, comme il disait, des œuvres qui assènent des thèses, qui ferment en fait finalement la pensée du lecteur, qui l'oriente, etc. Et je pense que c'est dans le même esprit, c'est-à-dire il y a une méfiance à l'égard d'un 18e qui était quand même quelque part, qui maintenait dans un cadre les lecteurs, effectivement, voilà.
Et alors ce personnage nouveau du 20e siècle, il va se caractériser beaucoup par la manière dont il parle, puisque on ne peut pas, comme Balzac, dire il est habillé comme ci ou comme ça, on va faire comme Céline et on va lui donner un ton qui immédiatement renvoie à des caractéristiques sociales, par exemple.
Tout à fait. Je pense, si vous voulez, que toute généralisation est toujours très dangereuse, mais il me semble que la voix du personnage, elle s'est beaucoup imposée au XXe siècle. Je pense au roman de Marguerite Duras, etc., où la sonorité, où le personnage glisse en nous à travers déjà une sorte de musique ou de musicalité. Je crois que c'est une des caractéristiques, en tout cas, du personnage au XXe siècle.
Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, aujourd'hui, Jean Bardet, qu'il y a un retour, finalement, à un personnage qui serait davantage le personnage du XIXe siècle, avec, finalement, une suspicion, pour le coup, c'est l'ère du soupçon, mais tournée à l'endroit, cette fois, du nouveau roman, qu'on accuse d'être froid, qu'on accuse, finalement, de ne pas suffisamment ressentir les choses.
Alors, si, je le crois aussi, aussi. Je peux même dire que je le regrette, en fait. Je ressens la même évolution. Il y a quelque chose qui me frappe, notamment quand j'entends ou quand je lis des critiques littéraires, c'est justement l'importance qui est donnée aux personnages dans ces critiques littéraires. Voilà, à la psychologie
d'ailleurs,
des personnages.
Il y a beaucoup de romans qui sont autobiographiques aujourd'hui,
exactement,
de plus en plus.
Exactement. Et ça m'attriste un peu parce que j'entends rarement parler de l'écriture, de l'atmosphère qui se dégage, si vous voulez, du livre. Et je trouve ça, effectivement, un peu décevant. Le personnage devient un outil un peu réducteur de l'approche des livres.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà une belle ouverture pour les dissertations des lycéens. Merci d'avoir posé pour nous les points de repère importants sur cette question du personnage de roman. Pour en savoir plus, on peut évidemment se procurer votre livre, Le personnage de roman, collection La Bibliothèque Gallimard. C'est un livre de 2007. Toutes les références sur notre site. Tout de suite, un peu de méthodologie.
La compagnie des auteurs. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et c'est avec vous, Marie-Sandrine Lamoureux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au lycée Joliot-Curie de Nanterre et vous allez ici, 3 jours durant, donner des conseils aux lycéens de première pour leur permettre de mieux appréhender les différents exercices du bac. Vous nous parlerez demain de l'écrit d'invention et mercredi de la meilleure manière de réussir son oral. Mais on commence aujourd'hui avec la question de corpus. De quoi s'agit-il ? C'est très mystérieux toujours cette question de corpus.
Alors la fameuse question sur corpus, évaluée sur 4 points dans les séries générales, 6 points dans les séries technologiques, et qui vient du fait que justement on présente dorénavant le sujet du baccalauréat sous la forme d'un corpus. Donc on va chercher à savoir...
Ça fait quelques années là maintenant.
Oui, on va chercher à savoir en fait à la fois ce qui rattache les textes, chacun des textes au corpus, et ce qui fait leur spécificité.
Alors qu'est-ce qui est évalué dans cette première question de corpus ?
Je dirais, bien sûr, l'aptitude à rédiger une réponse argumentée, à soutenir un propos.
Toujours, ça, il faut y penser en permanence.
En permanence, quel que soit le sujet. À tisser des liens entre les textes, à faire une lecture interprétative, un petit peu à être en quelque sorte au-dessus, à ne pas porter un regard myope sur les textes. C'est ça qu'on évalue.
C'est quoi un regard myope sur les textes ?
Un regard myope, ça serait de foncer tout de suite sur un champ lexical, moi je préfère dire une isotopie, sur une figure de style qu'on a repérée, et d'oublier que ce texte a un sens, qu'il a été écrit par un auteur qui a réfléchi et qui aurait pu régler le problème en 3 mots, si c'était Flaubert. Et pourtant, il s'est donné la peine d'en faire 15 pages. Il y a bien quelque chose qui passe.
Donc la question qu'il faut se poser, c'est toujours qu'est-ce que l'auteur a voulu dire au fond ?
Qu'est-ce qu'il a voulu dire au fond et comment il le dit ? De quelle manière ? Donc qu'est-ce qui fait sa spécificité, mais qu'est-ce qu'il rattache au reste ?
Ça, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut éviter, alors, Marie-Sandrine Lamoureux ?
Alors, je dirais, donc, éviter en premier lieu ce fameux regard myope, de foncer sur des petits moyens techniques en oubliant le reste. Et en même temps, éviter... parce que c'est une question sur corpus. Donc, si on ne compare pas les textes, ça n'a aucun intérêt. Et si on ne justifie pas son propos par des éléments des différents textes, ça n'a pas non plus d'intérêt. Donc... voilà ce qu'il faut éviter. Et puis évidemment, on attend un propos organisé, avec une introduction qui présente les textes, qui présente la question, qui explique en quoi c'est un corpus. Est-ce qu'il est synchronique ? Est-ce qu'il est diachronique ? Est-ce qu'on est sur le même genre, sur le même thème ? Qu'est-ce qui rapproche au fond ces textes ? Et petit à petit, on va pouvoir dire ce qui les éloigne les uns des autres. Et conclure, répondre à la question. Parce qu'il y a des élèves, entre-temps, ils oublient qu'on leur a posé une question précise et qu'on attend une réponse précise.
Oui, donc peut-être à la fin, relire la question et voir si on y a... au moins répondu. Comment on se prépare à cette épreuve ? Là, on est à quelques semaines du bac. Que fait-on ?
Alors, premièrement, on s'entraîne. On s'entraîne. On trouve.
Moi, j'ai. Des annales.
Alors, par exemple, et j'ai coutume de dire à mes élèves de trouver autour d'eux ce que j'appelle. pour rire un peu, pour dédramatiser la situation, ce que j'appelle des victimes, c'est-à-dire des gens à qui ils vont pouvoir parler de ce qu'on a fait en classe, de ce qu'ils ont vu les années précédentes, de ce dont ils se sont nourris par leur propre culture. Donc on s'entraîne, on relit ses fiches, on met
tout... Ça peut être le petit frère, la petite sœur,
mais oui,
ou les parents,
ça, ou les
qui sont de très bonnes victimes.
Ou le copain de classe, la grand-mère, allez hop, parler, prendre l'habitude de parler des textes, de s'exprimer dans un ordre précis, pas forcément à des gens qui vont être savants sur le texte, justement, parce qu'il va falloir mieux s'expliquer. Vous voyez, moi, si on me parle à demi-mot, implicitement, de tel sens d'un texte, je vais essayer de chercher de deviner, évidemment, si je l'ai étudié avec tel ou tel élève. Alors que s'il faut l'expliquer à sa tata Renée, ben, il faut qu'elle comprenne, quoi, à un moment, ce qu'on va dire.
D'accord. Eh ben écoutez, merci Marie-Sandrine Lamoureux. On se retrouve demain alors.
Alors à demain.
À demain. Deuxième partie de cette première émission de préparation au bac de français dans la compagnie des auteurs. Nous allons à présent parler de l'exercice du commentaire, d'abord d'un point de vue méthodologique, puis avec un exemple de commentaire. Tout cela grâce à Véronique Anglard, professeure au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés et auteure d'un livre consacré à cet exercice publié chez Armand Collin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, on pourrait se demander avec vous à quoi ça sert finalement cet exercice du commentaire composé. Et puis même, j'ai envie de vous demander si cet exercice est d'abord scolaire ou est-ce que ça peut aussi structurer la pensée dans finalement la vie de tous les jours.
Oui, moi je pense que la question de l'utilité est une question très moderne.
Et trop donc, peut-être, on s'attache trop à l'utilité.
Non, la légitimité d'un exercice qui a l'air d'être scolaire, mais qui en réalité ouvre sur ce que vous dites, c'est-à-dire la capacité à décrypter les messages implicites auxquels nous sommes journellement confrontés. Donc effectivement, là, il s'agit de décrypter les messages qui ont été envoyés, les messages implicites par les auteurs patrimoniaux de notre culture. Donc, avoir la possibilité de les comprendre, de les inscrire dans l'histoire de la langue, dans l'histoire de la pensée, et également la possibilité peut-être aussi d'aimer ses auteurs, parce qu'on n'est jamais seul avec un livre.
Oui, parce
quel qu'il soit.
On a l'impression que la littérature est un domaine très reculé de la société, mais en effet, c'est d'abord un exercice de communication qu'on apprend aussi en faisant le commentaire composé, puis un exercice pour libérer les mécanismes de la pensée, oui. Dites-vous.
Oui, pour essayer de comprendre justement ce que l'auteur a voulu dire en racontant telle ou telle histoire, en évoquant tel ou tel personnage, comment lui-même s'est impliqué dans la restitution de toute une époque. Mmh. Hein, l'éducation sentimentale de Flaubert restitue ce point de vue sur une époque, sur une révolution qui, d'après lui, a été manquée. Et on a là un point de vue à la fois sur un temps, sur une période, et sur la littérature, c'est-à-dire comment est-ce que le roman réfléchit lui-même d'un point de vue critique sur le personnage et sur l'histoire.
Alors pourquoi choisir finalement le commentaire au baccalauréat par rapport aux autres exercices proposés ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Disons que par rapport à l'exercice de la dissertation, là on est un peu plus rassuré parce qu'on a un texte. On a un texte...
C'est plus facile pour autant ou vous ne diriez pas ça ? C'est plus rassurant.
Plus rassurant. Mais effectivement, ce texte ne doit pas être considéré comme un texte isolé. Il faut le resituer dans l'histoire de la pensée, l'histoire de la langue, etc. Disons qu'il demande peut-être moins de technique que la dissertation qui, elle, est déjà un exercice de préparation à la prise de décision. Deuxième...
Ça, c'est important de le souligner, oui. C'est qu'il y a un but à cet exercice, dont on parlera d'ailleurs demain, ouais. C'est en effet la prise de décision. Et une fois qu'on a ça en tête, peut-être que c'est plus facile d'ailleurs de construire un plan. Enfin, on verra ça demain. D'autres raisons ?
Pour plus tard. Alors, autre raison, étant donné qu'on est en relation avec ce texte, on va pouvoir établir malgré tout une relation d'identification avec ce texte, essayer de ressentir une émotion, entrer en connivence avec un auteur, puisque le commentaire de texte suppose une capacité de projection. Moi, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'ils sont en quelque sorte à eux-mêmes leur propre indicateur. Essayez à la lecture du texte de vous demander ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez de la colère, de l'indignation, de l'émotion, de la révolte ? Et donc, essayez de comprendre comment l'auteur a obtenu ce résultat de vous. Alors donc, il y a effectivement cette relation empathique avec le texte, mais il y a également une réflexion plus critique, plus organisée à mener sur le texte. C'est le but de la préparation pendant toute l'année.
Alors,
et troisième raison,
pardonnez-moi.
Moi aussi, peut-être plus matérialiste, c'est que le commentaire rapporte souvent des points.
Ah, oui, alors ça, c'est bien.
Il ne faut pas négliger cette épreuve parce que dans la perspective justement du baccalauréat et aussi du post-bac, c'est bien d'avoir de bonnes notes en français.
C'est
d'ailleurs pour ça que moi-même, j'ai choisi l'épreuve du commentaire au baccalauréat, mais ça fait longtemps.
Et avec succès. Alors, on va prendre un exemple. On va se dire qu'on est le jour du bac et qu'on a un corpus de 4 textes. On n'a pas pu enregistrer les 4 textes parce que ce serait trop long, mais on va quand même vous diffuser le premier d'entre eux. C'est un extrait de Victor Hugo, lu ici par Laurane Travagli-Chanal.
Un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit « Tiens, il lui semblait presque qu'elle était jolie. » Ceci la jeta dans un trouble singulier. Jusqu'à ce moment, elle n'avait point songé à sa figure. Elle se voyait dans son miroir, mais elle ne s'y regardait pas. Et puis, on lui avait souvent dit qu'elle était laide. Jean Valjean, seul, disait doucement « Mais non, mais non !» Quoi qu'il en fût, Cosette s'était toujours crue laide et avait grandi dans cette idée avec la résignation facile de l'enfance. Voici que tout d'un coup, son miroir lui disait comme Jean Valjean. Mais non. Elle ne dormit pas de la nuit. Si j'étais jolie, pensait-elle, comme ce serait drôle que je fusse jolie. Et elle se rappelait celle de ses compagnes dont la beauté faisait effet dans le couvent. Et elle se disait, comment ? Je serais comme mademoiselle une telle ? Le lendemain, elle se regarda, mais non par hasard, et elle douta. Où avais-je l'esprit ? Dit-elle. Non, je suis laide. Elle avait tout simplement mal dormi. Elle avait les yeux battus et elle était pâle. Elle ne s'était pas sentie très joyeuse la veille de croire à sa beauté, mais elle fut triste de n'y plus croire.
Un extrait donc des Misérables, ça n'est pas l'extrait en entier, parce que un petit peu plus loin dans le texte, Cosette va se rendre compte, en se regardant de nouveau dans le miroir, qu'elle est véritablement belle. Que retenez-vous de ce texte, Véronique Anglard ?
Alors, effectivement, le sujet qui est abordé, c'est la relation au miroir. Mais au préalable... Moi, je pense qu'au bac, il faut avoir conscience du fait qu'on a déjà mis en perspective le texte avec la question. Donc, la question sur le corpus doit être mise en perspective avec les autres exercices. Il faut prendre l'épreuve dans sa globalité. Mmh. Donc, effectivement, là, on a la relation du personnage à son miroir, à son image, et l'interrogation sur l'identité. Interrogation sur l'identité chez une jeune fille qui va progressivement prendre conscience de sa beauté, prendre conscience de ses possibilités, d'autant que on a un titre La rose s'aperçoit qu'elle est une machine de guerre.
Ça, c'est le titre du chapitre.
C'est le titre du chapitre qui a été donné par Victor Hugo.
Alors ça, c'est très important parce que
oui, c'est très important.
Il faut d'abord regarder ce genre de signes, c'est-à-dire savoir que ça fait partie des Misérables, que le titre du chapitre est celui que vous venez de donner. C'est ce qu'on appelle le paratexte.
Voilà, tout ce qui est autour du texte, c'est le paratexte. Et donc, effectivement, bon, là, on sait qu'il s'agit d'un roman de Victor Hugo, qui est un des grands auteurs de la littérature française, qui est représentatif en quelque sorte de l'idée que l'on se fait de notre propre littérature. Les Misérables, deuxième partie du 19e siècle, c'est un roman qui est effectivement un roman qui a un souffle, qui un roman qui met en perspective des grandes périodes historiques de notre histoire. Et il y a un dépassement du personnage en tant que simplement fabrication. Alors, donc, ici, effectivement, l'élève qui se retrouve au bac, il est rassuré puisqu'il a sa petite introduction, la présentation qui est donnée par l'énoncé. Néanmoins, il faut qu'il voit bien que Victor Hugo, Les Misérables, de toutes les façons, normalement, Les Misérables, c'est un roman qu'il doit connaître, qui... Et ne serait-ce que ce terme, les misérables, on réfléchit, bon, les misérables dans quel sens et on regarde bien la date. Mmh. 1862, deuxième partie du 19e siècle, Victor Hugo est déjà parti, il est en exil, c'est toute sa partie romantique, toujours, puisque tout le 19e est traversé par la mouvance romantique. Et dans ce texte-là, on a une illustration de sa perspective sur le personnage et la réalité. La rose s'aperçoit qu'elle est une machine de guerre.
Donc la rose, c'est Cosette.
La rose, c'est non seulement Cosette, mais au-delà de Cosette, c'est la représentation du féminin, la représentation de cette jeune fille qui est en train d'éclore et de prendre conscience de sa beauté, de son pouvoir, puisqu'on a une opposition, une alliance de mots, un oxymore. Ce qui est tout à fait dans le style de Victor Hugo, qui fonctionne très souvent sur la base des antithèses. Donc la rose est une machine de guerre. En quoi est-ce qu'elle est une machine de guerre? Pour qui? Pourquoi? Vis-à-vis d'elle-même? Comment est-ce qu'elle-même va pouvoir maîtriser, en quelque sorte, ces pouvoirs dont elle prend conscience et qui peut-être aussi lui font peur à elle-même? Mmh. Donc, vous voyez, là, on approche progressivement de la problématique du texte, ce qui met bien en évidence le fait que lorsqu'on fait un commentaire de texte, il faut bien distinguer ce qui relève du sujet, c'est-à-dire la relation du personnage à son image et la problématique, c'est-à-dire comment est abordé dans ce texte-là en particulier ce sujet qui est la relation à son identité par le personnage au travers du miroir. Donc ici, identité heureuse, malheureuse ou pas. Voilà.
C'est ça la problématique, la question de l'identité alors. Pour vous, la problématique de ce texte, c'est ça?
C'est cette relation à son identité, la relation, l'acceptation de ce qu'elle est, l'interrogation sur sa beauté.
Donc il faut axer le commentaire sur ce thème-là. Enfin, c'est une possibilité.
C'est
en
une
tous les
possibilité.
Cas.
C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est la problématique qui s'impose à la lecture du texte. Et surtout par comparaison avec
les trois autres textes. Donc venons-en aux trois autres textes.
Dont nous n'avons pas encore parlé. Et puisque livrons-nous à cet exercice difficile de parler de textes qu'on n'a pas entendu. Donc dans le corpus, on avait ce texte, cet extrait des Misérables. Un extrait de Bel Ami de Guy de Maupassant qui est extrêmement connu. Georges Duroy arrive dans une soirée et il s'interroge sur son apparence. Il s'interroge sur son allure, puisque chez lui, il n'a eu qu'un aperçu, un maigre aperçu de ce qu'il est. Il n'avait qu'un tout petit miroir. Donc, et il se regarde, il est tout à fait rassuré parce que là, il se voit intégralement. Donc on voit que dans ce texte-là, la relation au miroir est une relation rassurante, une relation heureuse. Donc il apparaît comme un personnage de l'apparence, de la mise en scène et du rapport euphorique à autrui. Le texte 3, c'est aussi un texte de Guy de Maupassant qui est normalement extrêmement connu des élèves.
Le Horla.
Un extrait du Horla. Le narrateur, puisque là on est en focalisation interne, c'est-à-dire on ne voit la réalité qu'au travers de son regard et son regard flottant sur lui-même et sur la réalité, puisqu'il a l'impression d'être persécuté.
Ouais.
Donc lui, il pense qu'il est persécuté et il va essayer de piéger en quelque sorte son persécuteur en s'asseyant devant une armoire à glace. Alors au moment où il sent que le persécuteur est là, il se retourne vite, hop, et il ne voit pas son reflet dans la glace de l'armoire. Et donc, en quelque sorte, là, c'est l'absence de reflet, la déstabilisation, l'interrogation sur son rapport à lui-même. Et donc, vous voyez qu'on est toujours dans la continuité et on a, au travers du corpus, le moyen de véritablement identifier la problématique et l'originalité du texte à commenter. Le quatrième texte est un extrait de Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, donc un roman de Tournier.
Dont on parlera aussi demain, d'ailleurs.
Voilà, 20e siècle, où justement Robinson, qui vit tout seul sur son île, ne s'est pas vu depuis longtemps, rapport à son image, et là, il est complètement déstabilisé, il se demande s'il est vraiment toujours le même.
Alors, il nous reste très peu de temps pour justement proposer un plan. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces quatre textes dont on voit qu'en effet, ils ont la question de l'apparence et du miroir en commun? Quel plan proposer?
Alors, tout d'abord, bien se concentrer sur la problématique. La problématique, la découverte de sa beauté dans le miroir déstabilise-t-elle Cosette, puisque le commentaire portait sur le texte de Victor Hugo. Et on va organiser sa pensée en fonction de cette problématique. La première partie est toujours la plus évidente. Elle relève toujours de l'information.
On est toujours dans la description, dans la première partie.
Voilà, c'est plus dans la description. Elle porte davantage sur le comment. Comment Cosette se découvre-t-elle elle-même? Et ce dont on s'aperçoit véritablement dans le texte de Victor Hugo, mais même dans les trois autres textes, c'est la dimension extrêmement théâtrale de ce rapport à soi-même, de ce rapport au miroir. Mm-hmm. Donc on a l'impression de voir ces personnages. Donc nous, en tant que lecteurs, nous appuyons sur ces éléments. Et mise en récit de cette transformation théâtralisée dont nous allons parler dans la première partie. Deuxième partie, elle est plus explicative. Mmh. Première partie descriptive. Deuxième partie plus explicative, elle interroge tout l'implicite, ce que l'auteur suggère sans vraiment l'expliquer, puisqu'on a vu qu'il y a différentes personnalités, en quelque sorte. Il y a une mue qui se produit chez Cosette. Il y a la Cosette pensionnaire qui se croyait laide et qui vivait isolée. Il y a la Cosette qui pense pouvoir séduire, pouvoir plaire. Et à la fin du texte, cette explosion de Cosette qui est complètement rassurée sur elle-même.
Qui devient
sur
une machine de guerre.
Et oui, et qui sort dans le jardin, qui a l'impression d'être à l'unisson de la nature. Et troisième partie, plus sur la dimension symbolique du personnage, puisque la découverte par Cosette de sa beauté questionne son identité, et une identité qui passe par son rapport à son miroir, mais également par le rapport à autrui. Puisqu'on voit que Jean Valjean, qui s'occupe d'elle, qui l'a protégée et qui l'a arrachée aux infâmes Thénardier,
oui.
Jean Valjean est lui-même inquiet.
Donc c'est par le regard d'autrui qu'on construit soi-même
également,
et qu'on construit son
image.
Et
qu'on a pu voir aussi dans les autres textes. Mmh. Donc, progression logique et pas de répétition du contenu du texte, ça c'est fondamental pour le commentaire composé.
Et une conclusion alors, une introduction on le fait à la fin?
Alors, dans l'introduction, on la fait tout de suite au début et on la rédige. Pour le reste, on peut se contenter...
Fais pas l'introduction à la fin.
Non. Ah non.
Jamais.
Non, moi, je recommande à mes élèves de bien centrer leur perspective dès le départ. Savoir ce qu'on va dire, savoir quelle est la problématique. Donc, synthèse, rédaction de l'introduction en trois points. Premier point, situation élargie du texte et précise. Deuxième point, idée générale et problématique du texte. Troisième point, plan du commentaire. Plan du commentaire qu'on essaie de rendre élégant. Dans la première partie, on verra que rien. Donc, on essaie d'être élégant.
Il faut avoir du style quand même. C'est l'épreuve
de
français.
Ça, c'est le grand jeu. Donc, le style. Et ensuite, on va construire chaque partie en donnant une idée. Donc, construire des paragraphes. Et dans chaque paragraphe, une idée, un procédé de style, une illustration dans le texte. Et dans la conclusion, on fait la boucle. On fait la synthèse, on revient sur la problématique pour se dire si on peut répondre ou pas à notre problématique. Et on essaie, si on sait, de raconter la suite.
Et on n'oublie pas les transitions. Merci beaucoup, Véronique Anglard. On est arrivé à la fin de cette émission. Je renvoie nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus. Et il y a encore beaucoup à dire à votre livre méthodologique publié chez Armand Collin en 2013. Il s'appelle tout simplement Le Commentaire Composé. Je rappelle également que nous nous sommes basés sur les sujets du bac des premières L en 2013. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'émission. Demain, la compagnie continue ses révisions du bac de français. On abordera la thématique des réécritures au programme pour les premières L. Ce sera avec Marianne Jéglé. Nous ferons également un retour sur la méthodologie de l'exercice de la dissertation avec Hélène Merlin-Cajman. Avant cela, c'est la poésie et c'est Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Quel jour on est là? On est encore en mai, non? Mais, Paris, mais. Non, pas que Paris, toujours. On pourrait se souvenir encore de mai 68? Non, on l'a déjà fait beaucoup, y compris les redites. On l'a fait et refait, sans se lasser, hein. Mais, je sais pas, on pourrait prolonger l'esprit de la contestation, ou celui qui veut des engagements politiques dans toute parole. Déplacer, se déplacer, ici, sans lien, sans lieu. Épeler une révolution possible, dit Jean-Marie Glaise, dans Trouver ici, reliques et lisières, paru au Seuil. Le récit commence avec la rivière. Nous n'avons pas de nom. Les morts reviennent quand il pleut. Une écriture à fragmentation. La politique comme une gorgée d'eau. Ici, aux lisières, avec les restes brûlants, faire pousser des ronces, le présent simple, un communisme sensible. Et puis, écrit en caractère majuscule, il faut construire des cabanes. Oui, nous habitons vos ruines, mais oui, ceci est un projectile. J'utilise pour écrire les accidents du sol. Aller vers un arbre, la poésie n'est pas une solution. Boire un oiseau, noir écran, manger un poisson de source. À peine s'avança-t-il vers les bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Est-ce l'enfer de Dante? La politique des ronces. Quand on apprend à parler, on commence des phrases, on lance des mots. Parfois, elles se cassent, parfois, ils tombent. On ne fait rien ensuite pour tout recoller dans l'ordre. L'enfant regarde sur le sol tous ces fragments cassés et il les replace à partir de quelques désirs. S'il y a de la poésie, c'est à cause de la fausse musique et des meubles en carton qu'ils ont mis un peu partout pour nous faire croire à des choses ou à des idoles. Opposer quelques barricades, sonner en prose, en acier, en métal rouillé politique, photographier le sol, les accidents du sol, dresser des listes de simples listes, tenir... Ne pas se laisser impressionner par leur mélodie stupide et inconsistante. Une autre façon de ne pas s'abandonner aux stupéfiants lyriques, aux drogues douces ou dures de la poésie en sachet, c'est de faire des trous, creuser, trouer, ou bien encore de parler aux arbres. J'ai deux arbres, ils sont géographiquement éloignés l'un de l'autre, mais chaque fois que je vois le premier, l'autre est présent, puisqu'ils sont deux, nous, eux et moi, sommes trois. Et lors de chaque rencontre, un seul, à nous trois, une simplification, un rituel. Écrit à Tarnac le 7 mars 2016, Jean-Marie Glaise.
Merci Jacques Bonafé pour ces poèmes donc de Jean-Marie Glaise.